Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette rencontre en compagnie d'Aurélien Bélanger pour son dernier ouvrage publié chez Gallimard, Le continent de la douceur. Aurélien, je suis très très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Après avoir écrit une trilogie française, débutée avec La théorie de l'information, publiée en 2012, qui dressait le portrait d'un des premiers milliardaires français de l'Internet, qui n'était pas sans rappeler Xavier Niel, le patron de Free, puis en 2014, L'aménagement du territoire, qui dressait le portrait d'un personnage inspiré de Francis Bouygues à travers une grande fresque sur l'implantation d'une ligne TGV en Mayenne, roman qui vous avait valu à l'époque d'être récompensé par le prix de Flore. Et enfin, Le Grand Paris, publié en 2017, qui narrait les aventures d'Alexandre Belgrand, lointain descendant d'Eugène Belgrand, un ingénieur des ponts et chaussées du Second Empire, à qui l'on doit notamment les égouts de Paris. Alexandre Belgrand qui se retrouva à la tête du projet du Grand Paris en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Avec Le continent de la douceur, vous franchissez enfin la frontière transalpine pour nous parler de la construction européenne par le prisme d'un micro-État imaginaire de l'ex-Yougoslavie, le Karst, qui n'est pas sans rappeler la Sildavie de Tintin et le sceptre d'Ottokar. Un pays de forêts, de hautes technologies et de génies mathématiques qui se verrait bien entrer dans l'Union européenne grâce à la ténacité d'une banquière exilée à New York, l'argent d'un intellectuel à chemise blanche ouverte et la folie d'un écrivain nationaliste. Ce continent de la douceur est un récit européen moderne qui tente de concilier les enchevêtrements de ses peuples, d'adoucir les courbes irrégulières de son territoire, de faire le deuil de l'Europe nationaliste. Toutes les générations sont alors convoquées à cette tâche, de Flavio, garçon abandonné à un destin exceptionnel, à Yann et Ida, couple princier et capitaliste, en passant par les habituels Jean de Cour, le romancier du régime, le mathématicien national, magnifié par sa disparition mystérieuse, et un penseur français, comme seule la France peut en produire, du calibre d'un Bernard-Henri Lévy. À ce stade-là, résumer l'intrigue est quasiment impossible, mais qu'importe, puisqu'au fond, l'essentiel se trouve dans les thèmes que vous évoquez dans ce roman. à savoir les mathématiques, l'Europe bien évidemment, la chrétienté, le capitalisme, l'OTAN, Bruxelles, la technocratie, les utopies, le forum de Davos, la guerre des Balkans, le libéralisme, et j'en passe. Bernard Quirini, dont je ne peux que vous recommander la lecture de son dernier ouvrage « Vie conjugale » publié chez Rivage au printemps dernier, décrit votre livre comme ceci. C'est, si l'on veut, une sorte de mix improbable entre Oswald Spengler, Mircea Eliade, Thomas Mann et Jacques Attali, ceci n'étant pas un sarcasme malgré les apparences. Alors, avant d'évoquer le fond de votre récit, j'aimerais qu'on évoque sa forme. Et contrairement à vos précédents ouvrages, vous avez opté pour de courts chapitres de 5-6 pages. Et je voulais savoir si l'écriture des chroniques que vous animez quotidiennement dans la matinale de France Culture, et dont un recueil a d'ailleurs été tiré au printemps dernier sous le titre La France, publié chez Gallimard, a eu une incidence sur la construction de ce roman.
Eh bien, presque, bonsoir, merci pour la présentation, presque, pas directement, parce que le livre, je l'avais commencé avant d'être chroniqueur, avant même de savoir que j'allais le devenir, mais il y a toute une partie écriture où, grosso modo, il faut faire un gros massif, un peu à la hache, et travailler tous les jours le plus possible pour avoir beaucoup de matière. Et il y a une deuxième partie qui est la partie du montage, où on tente un peu de sauver ce qui peut l'être et de reconstituer une armoire à partir, pas d'allumettes, enfin, plutôt d'énormes poutres, enfin voilà, donc un mélange de choses comme ça, et en faisant ça, assemblant les chapitres, ayant l'idée d'intercaler les récits que j'avais pas eu spontanément, etc., parce qu'au début le récit était beaucoup plus chronologique, et là il est plutôt centré sur les différents personnages. Ayant en tout cas cette idée, je suis arrivé à un moment mais extrêmement bête où pour intercaler deux chapitres, hein, j'avais genre 10 chapitres d'un côté, 6 de l'autre, et c'était un peu déséquilibré, et si je voulais faire les enchevêtrer comme ça, donc je suis allé à mon bureau, et j'ai écrit en mode chronique le chapitre au tout début sur les billes comme une métaphore de l'économie libérale. Et j'étais très content, je ne l'ai fait que pour cette fois, mais j'étais très content parce que je me suis dit, tiens, en fait, le métier de chroniqueur m'a permis de faire quelque chose en tant que romancier, c'est d'écrire un texte à la demande en une heure ou deux. Donc je ne le ferai pas tout le temps parce que ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un texte dans ce livre qui est en format chronique.
Dans une de vos chroniques, justement, du 7 mai 2019, vous dites que Bret Easton Ellis a eu une certaine influence sur votre parcours. Je vous cite, « J'avais été tellement bluffé par ses facilités et son génie, par le début de Lunar Park et par les scènes de campus des lois de l'attraction, que j'avais renoncé à la littérature et que je m'étais inscrit en thèse de philosophie. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes tiraillé entre l'écriture romanesque et la non-fiction ?»
C'est un problème vraiment de pur orgueil. J'avais lu bêtement quelque part que Dante, c'était hyper bien parce que c'était à la fois l'intégration de la totalité des connaissances de son époque, philosophie comprise, et leur transfert vers le champ littéraire. Et je m'étais dit comme ça, Dante ou rien. Et que donc, du coup, j'ai toujours eu l'idée qu'il fallait articuler le champ de la philosophie et le champ littéraire. Et pendant longtemps, quand j'étais en prépa et au début où je faisais des études de philosophie, j'hésitais vraiment... façon très cornélienne, un petit peu romantique, comme on est souvent quand on a 20 ans, entre la carrière littéraire et la carrière philosophique. Et la lecture de Lunar Park a été vraiment le déclencheur pour arrêter solennellement. J'avais écrit 3-4 tout début de roman, pas très abouti. Et la lecture de Lunar Park avait été vraiment le décisif. Je me suis dit, j'arrête. Je me suis mis à la philosophie pendant strictement 2 ans, de façon très, très sérieuse. Jamais été aussi sérieux que pendant ces 2 ans. Si j'arrive encore aujourd'hui à lire l'anglais, langue que j'arrive même pas à parler ni à comprendre, si j'arrive à le lire très bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu des bouquins de métaphysique en anglais pendant 2 ans, comme ça, avec passion, tous les soirs. J'étais libraire à l'époque, en plus, je faisais des journées conséquentes. Le midi, je lisais des fiches. Enfin, j'avais vraiment un rapport très, très, comme ça, très, très fort à la philosophie. Je me levais 1 heure plus tôt pour faire de la philosophie. Enfin, et rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau parce que j'arrivais en séminaire et les gens étaient tous meilleurs que moi. C'était hyper vexant. Alors, j'étais certain de travailler beaucoup plus qu'eux. Et... je me suis lancé comme ça dans l'écriture d'une thèse, et un été, j'ai l'idée très comme ça qui me traverse l'esprit que je voudrais écrire un bouquin sur Houellebecq, parce que je trouvais que La possibilité du Nil avait été maltraitée par la critique, j'avais un côté justicier comme ça. Et donc j'ai envoyé une lettre à mon professeur, mon maître de philosophie, de maître de thèse, je ne sais plus comment on appelait ça, pour lui dire que je mettais entre parenthèses pendant 3 mois l'écriture de ma thèse de philosophie pour me lancer dans un essai sur Houellebecq. Finalement, l'essai sur Houellebecq m'a pris 1 an et je ne suis jamais revenu à la philosophie. Mais c'est quelque chose, une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase d'un personnage qui sert de modèle au personnage de Gorinsky dans le livre du mathématicien, une phrase de Brouwer, grand mathématicien hollandais. Il dit « Le génie philosophique passe à 20 ans, paresse de l'appliquer mis à part », un truc comme ça. Et je crois beaucoup à ça, en fait, l'idée que c'est... La philosophie, on l'a entièrement à l'âge de 20 ans ou on ne l'a pas à l'âge de 20 ans et qu'après on l'applique. Donc moi, je l'ai eu un peu, pas complètement. J'avais des visions fatalistes de l'univers que j'arrivais pas très bien à articuler et à leur donner un sens. Donc je ne suis pas devenu philosophe, je suis devenu romancier. Mais ça me travaille. Enfin, cette thèse que je n'ai jamais finie, comme j'aime bien le... Mes romans ne sont absolument pas des thèses et n'y prétendent pas, et ce serait vraiment commercialement suicidaire et de le dire et de le faire. Mais l'objet thèse, l'idée, un petit peu là pour le coup, comme je parlais dedans tout à l'heure, l'idée kaléidoscopique que cet objet retiendrait tout un champ de connaissances beaucoup plus gigantesque que lui, l'idée que la meilleure thèse soit l'équivalent d'un roman parfait et inversement, c'est une idée qui me travaille encore. Et j'ai pas fini d'écrire cette thèse, c'était sur la réidentification des individus dans les mondes possibles chez David Lewis et Leibniz. Et peu de questions me travaillent encore. Enfin, il se passe très peu de semaines sans que j'y réfléchisse pas. Et tous mes livres sont une tentative de répondre à la question qui est posée par ma thèse. Donc en fait, j'ai vraiment bien fait de l'arrêter parce qu'elle est beaucoup plus vivante que jamais.
Et est-ce que ça veut dire que vous serez amené éventuellement à écrire un essai ?
Je suis très très jaloux de Tristan Garcia qui a écrit un vrai livre de philosophie un jour, et vraiment, à moins de mourir mortellement jaloux, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais j'ai pas vraiment le niveau pour écrire un essai de philosophie.
Après, en plus, il alterne éditorialement où il sort un roman.
Plus, ouais, et là en l'occurrence, c'est même pas un essai, c'est vraiment son livre sur les. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais il a vraiment fait un essai dans l'ordre philosophique, je crois, qui est vraiment strictement un livre de métaphysique. Donc j'en ai la prétention, mais j'en ai pas le niveau encore.
Alors, comme vous venez de le dire, votre premier livre était un livre sur Michel Houellebecq. Est-ce que Houellebecq a une influence sur votre écriture ou sur la manière d'aborder certains sujets ?
Houellebecq, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, il a une influence sur la façon spectaculaire d'envisager mon métier. Ça a été le grand modèle pendant longtemps sur... Quelqu'un m'avait dit ça un jour, qu'il est le seul romancier de son époque, de sa génération, à se concevoir comme un artiste contemporain, avec tout un jeu d'apparition, de disparition, avec toute une mise en scène de lui-même en tant qu'artiste, et que ses œuvres à chaque fois sonnent comme un coup de tonnerre, etc. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour cette conduite de carrière de Houellebecq. Je dois admettre que je suis beaucoup plus polygraphe, beaucoup moins tenu que lui, beaucoup moins pingre de mon écriture aussi, avec tous les défauts que les deux positions ont, et qu'en fait je ne serai jamais Houellebecq. Et bon, au final, moi j'avais laissé laissé Houellebecq très haut avec La possibilité du Nil. J'aime moins ces trois romans d'après. Mais je l'avais laissé déjà comme un écrivain presque national. Et là, il est entré en état de transfusion totale avec la France. Je ne pense pas que ce soit une position dont je rêve. Disons qu'il y a deux modes de légitimité en France aujourd'hui. Il y a le suffrage universel direct et il y a l'écrivain national. Et les deux personnes les plus légitimes de France, aussi bizarre que ça puisse paraître aujourd'hui, sont Emmanuel Macron et Michel Houellebecq. Donc j'ai compris, j'en suis un peu triste que je serais ni président de la République ni Michel Houellebecq, mais je m'adapte avec cette idée. Après, pour finir sur un registre plus sérieux, Houellebecq, je suis très décisif dans ma vie parce qu'il m'a enseigné. Moi, j'étais vraiment de l'école. J'ai lu quand j'avais 20-22 ans la totalité des livres du nouveau roman quasiment. J'avais un côté comme ça, très 20e siècle. Très 20e siècle finissant, 20e siècle finissant, qui ne finissait pas de mourir. Et Houellebecq m'a réenseigné l'art du robuste grand roman à thèse et quelque chose de très contemporain, etc. Et donc Houellebecq a accompagné pour moi ma sortie spirituelle du 20e siècle, parce que comme je suis né en 1980, j'ai un rapport comme ça de dette assez fort vis-à-vis du 20e siècle, et m'a ouvert la littérature du 21e siècle. Mais c'est pour ça que je suis un peu frustré de ces trois derniers romans, parce que ça monte comme ça jusqu'à La possibilité du Nil. Il fait de très grands livres, très ambitieux. Je lui reproche, mais bon, qui suis-je pour lui reprocher, parce qu'on écrit toujours les livres qu'on veut et dont on est capable d'écrire. Je trouve que ces trois derniers livres sont moins des livres monde, comme ont pu l'être les trois premiers.
Alors passons maintenant sur le continent de la douceur, qui est un roman sur la construction européenne. C'est un sujet qui est rarement, voire même jamais abordé par les auteurs de fiction contemporaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Le point de départ, c'était des mots-clés qui volaient dans l'air et que quand quelque chose se reconfigure et qui m'échappe, je souffre mentalement de ne pas comprendre ce qui se passe. Et je sentais qu'entre la crise grecque, la crise des migrants et la crise de l'euro et tous ces sujets qui étaient très fortement dans l'air, que quelque chose cristallisait. Et je voulais le cristalliser moi-même. Après, j'ai un rapport un peu critique bizarre à la littérature, c'est que j'interroge aussi ma propre bêtise ou mes propres mythologies personnelles. Et incontestablement, si la modernisation de la France et les mythes, grosso modo, de l'an 2000 qui clignotent en lettres vertes ou bleutées font vraiment profondément partie de mes mythologies d'enfance, et j'ai écrit des livres là-dessus, la construction européenne fait vraiment partie de mes mythologies d'enfance. Une scène très forte, c'est un professeur d'histoire plutôt marxiste qui déclare pourtant un jour qu'elle rêve de mourir avec marqué citoyenne européenne à la place de citoyen français sur son passeport. Ces choses que j'ai entendues enfant qui m'ont beaucoup marqué. J'ai connu une sorte d'apogée d'apprendre la flûte à bec. C'est la seule chose que j'ai fait à la flûte à bec, les trois premières notes de l'hymne européen. Toutes ces choses m'ont marqué, donc c'est une mythologie que j'avais envie d'interroger et qui était d'autant plus interrogeable que je sentais que l'idée était en crise. Moi, j'ai un côté un peu rétro-futuriste comme ça. J'aime bien m'intéresser au sujet quand le sujet périclite. Je trouve qu'il acquiert une patine romanesque. J'aime bien m'intéresser au Minitel, au TGV. Et en général, en plus, à chaque fois, chaque fois, j'ai parlé de l'écosystème des startups dans mon premier roman. Après peine le roman fini, on m'interrogeait. J'étais devenu une sorte de spécialiste des startups. On m'interrogeait alors qu'en fait, j'avais cessé complètement de croire aux startups. Pareil pour le deuxième livre, j'avais complètement cessé de croire au TGV. Et que là, donc, je ne sais pas encore ma position vis-à-vis de l'Europe, mais il y a un côté d'interroger de façon critique ça. Et donc, je me suis amusé à voir un personnage qui avait mon âge et qui était un Européen fervent, que j'ai porté comme ça, comme un témoignage presque vis-à-vis du futur, que j'ai voulu montrer qu'il était possible d'avoir été un Européen fervent à un moment de l'histoire européenne.
Et donc, est-ce que vous êtes un Européen convaincu ? Ou est-ce que vous l'avez été ? Est-ce que vous l'êtes toujours ?
Je suis facile à convaincre. Si je lis, par exemple, les mémoires de Jean Monnet, je suis complètement emporté, et j'ai un rapport de fétichisation extrême vis-à-vis de la figure politique de Jean Monnet, que je trouve qui est profondément sous-évalué et qui est un personnage avec quelques ajustements, quasiment de la cabine d'un Machiavel, mais un Machiavel positif, un Machiavel retourné. Je trouve des choses merveilleuses dans l'histoire de la construction européenne. J'ai aussi l'impression qu'on peut assister à quelque chose qui, comme le Saint-Empire, va lentement se dissoudre sans se dissoudre, et qu'on peut rester en fait avec un retour de l'Europe des nations et du dialogue bilatéral, comme aujourd'hui encore entre la France et l'Allemagne, mais que les institutions elles-mêmes pourraient être désactivé. Donc, j'ai problème par rapport à ça. Et puis, le problème de l'Europe, auquel j'ai été confronté, et c'est pour ça que la construction européenne est quelque chose de profondément héroïque, c'est quoi ? Je suis absolument certain, et j'ai du mal à être critique vis-à-vis de cette croyance que j'ai, c'est que La valeur messianique du projet, j'y ai vraiment cru et j'y crois encore. Je crois vraiment que le processus de modernisation politique enclenché en Europe après la Seconde Guerre mondiale est irréversible, est une chance absolue pour l'humanité, et que ce monde de plus en plus doux, il y aurait des règlements, mais aussi beaucoup de douceur, moins de morts violentes, moins d'accidents, etc., et au final, plus de guerre. J'y crois profondément. Je sais que c'est irréaliste, mais la partie de moi qui y croit ne peut pas y décroire. Donc il y a cet aspect très fort. L'autre chose, c'est que l'Europe est un objet intellectuellement difficile. Et c'est un objet dont il n'existe pas de bonne définition. C'est un objet dont la seule définition, c'est cette phrase prodigieusement géniale, mystérieuse et inquiétante des traités, pour une union sans cesse de plus en plus étroite. Voilà. L'Europe a quelque chose d'asymptotique. L'Europe a quelque chose d'une construction. Donc évidemment, c'est pour ça que je parle de mathématiques, dans l'idée que les fondements des mathématiques ne sont peut-être pas dans la caverne platonicienne qu'on a derrière nous, mais sont dans une écriture historique. Et donc l'Europe vaut vraiment comme une aventure. Et je pense par ailleurs qu'en termes d'aventure politique, c'est une des aventures les plus hallucinantes qui a été donnée de voir, parce que ce n'est pas un empire qui se constitue, ce n'est pas une fédération, on ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui se constitue, dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas la forme politique. Donc ça peut échouer, mais le projet, en quelque sorte, n'échouera jamais. Les cités grecques ont échoué, la démocratie grecque a tenu pas très longtemps, et puis il y a eu autre chose, mais l'idée a existé. Donc cette idée d'État-nation, qui sont quand même, en termes d'État-nation, d'une assez grande pureté historique. C'est pas des États récents, les États européens. C'est très vieux États-nations qui s'associent de cette façon. En soi, même si ça échoue cette fois, ça restera un grand moment de l'histoire politique de l'humanité, sans aucun doute. Ouais.
Il y a quelque chose de générationnel dans votre livre. Moi, je suis né en 1983 et je me suis vraiment reconnu dans les personnages que vous décriviez, notamment le personnage de Flavio. Est-ce que, justement, cet aspect générationnel, donc de parler de vous, de tous les gens qui sont nés au début des années 80, qui ont grandi avec cette idée de l'Europe, c'était quelque chose qui était présent dès le départ ?
Non, le personnage de Flavio, le personnage qui est né en 80 comme moi, est arrivé un tout petit peu plus tard. Bizarrement, il a un double un peu maléfique, un personnage qui est arrivé beaucoup plus tôt, parce que j'avais rencontré au hasard d'un voyage en Russie un jeune Français qui était jeune homme au pair, qui était un peu perdu dans la vaste Russie et qui venait, je crois, de Vendée ou qui avait des origines familiales en Vendée et qui était plutôt un jeune assez sympathique, très jeune, il devait avoir 17 ou 19 ans et qui était, pour caricaturer, un peu d'extrême droite, c'est-à-dire qu'il pensait vraiment qu'il y avait eu un génocide vendéen, il pensait vraiment qu'il fallait réarmer l'Occident, enfin, il avait toutes ces phraséologies. Et je me suis dit que c'était un très bon personnage romanesque, parce que j'avais imaginé, puis il me racontait qu'il faisait partie comme ça d'une sorte de confédération un peu bizarre, où ils passaient leurs étés à réparer des chapelles au Kosovo, alors qu'il était catholique, c'était des chapelles orthodoxes, etc. Et je me suis mis à imaginer un peu à la Julien Gracq dans son roman inédit dont le nom m'échappe, l'idée d'une sorte de confédération comme ça de jeunes d'extrême droite qui se seraient chargés de défendre les frontières de l'Europe. C'était tellement incongru pour moi de rencontrer ce personnage qu'avant même de le juger, je me suis dit tiens, c'est un super personnage romanesque. Et après, j'ai fabriqué son double plus positif qui me ressemble probablement plus qu'est Flavio. Flavio, j'ai mis un détail, je pense qu'en fait c'est plutôt bien vu. Ce type s'auto-complimente. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui était bien vu dans mon sentiment d'enfant. Ça a été beaucoup dit, c'est un peu anecdotique, mais les images Panini, à un moment, il y a eu les crados, et les crados, c'était des enfants normalement atrophiés ou qui avaient tous des problèmes, la peau qui fondait, le doigt porteur d'une crotte de nez qui transperçait la boîte crânienne, des choses vraiment monstrueuses. Et c'était vraiment des images qui étaient, par mes camarades d'école, qui étaient considérées comme grotesques et drôles. Et il y a eu une polémique menée bizarrement par le commandant Cousteau, comme quoi c'était l'immoralité absolue et que les enfants commençaient avec ça et finiraient dans la cocaïne. Et bizarrement, moi j'étais plutôt commandant Cousteau déjà, parce que j'avais vu des films du commandant Cousteau et qu'il avait plutôt ma sympathie, parce que j'aimais bien le côté Tintin du personnage qui allait chercher des canons au fond de la mer. Mais ensuite, instinctivement, je comprenais qu'il y avait dans ces images quelque chose de monstrueux et que c'est... Je ne pouvais pas le mettre. Alors c'est des choses que j'attribue à Flavio. Mes parents avaient acheté un jour une vieille 4L d'occasion. Et elle avait appartenu à des gens qui avaient fait beaucoup de tourisme dans toute l'Europe. Et elle avait des autocollants sur tout le pare-brise, qui faisaient quasiment le tour du pare-brise, et avec des petites écussons de vues de cité médiévale. Et ça, je l'ai repris dans le bouquin, parce qu'en fait, c'est le premier livre que j'ai fabriqué. Je suis encore mortellement triste de l'avoir oublié. C'est pour ça que je l'ai intégré dans le bouquin. J'avais scotché bizarrement tous ces autocollants. Ça faisait un livre qui allait dans tous les sens, que ça marchait pas du tout. Et c'est le vrai premier livre que j'ai fabriqué. C'est une sorte de livre d'heures très beau d'une Europe médiévale, avec des jolis écussons dorés et des châteaux et des donjons et des églises, et c'était très beau. Et arrive dans ce monde un petit peu que je m'étais fabriqué, les crados. Et les crados, ma réaction fut que c'était profondément monstrueux. Et il se trouve que les crados, on le sait maintenant, avaient été en partie dessinés par Spiegelman, qui est connu pour avoir écrit Maus, et qu'en fait, ce que j'avais ressenti profondément avec les crados, c'est que ça communiquait avec un imaginaire guerrier, et que ça communiquait avec les monstruosités de l'histoire. Et si on connaît l'histoire du dessinateur Spiegelman, qui fait d'abord les crados à l'époque où il est un dessinateur d'avant-garde new-yorkais, et dont le père est un rescapé des camps, et qui écrit ensuite la grande BD sur les camps, tout ça fait un sens. Je me dis qu'en fait, avec mes yeux d'enfant, à 8 ans, quand j'ai vu tout, j'ai pas vu tout ça derrière les crados, j'étais pas au courant de la Shoah à 8 ans, je crois pas en tout cas, ou pas aussi distinctement que ça, mais que ces enfants torturés par le docteur Mengele dans des caves, ils ressurgissaient dans les crados, et que les crados, du coup, exprimaient quelque chose de refoulé dans l'histoire européenne, et que... c'est ça qui est intéressant, c'est que ma croyance profonde en la paix absolue du continent européen est quasiment inentamable, et pourtant j'ai été témoin à 13, à 14 ans des massacres de Srebrenica, et j'ai vu la Yougoslavie comme ça, et c'est quelque chose de bizarre à raconter, mais c'était pas contradictoire, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on était tellement certains de vivre dans la paix que la présence de la guerre, on n'est absolument pas capable de la comprendre, c'est toute proportion gardée, c'est ce qui s'est passé avec la Syrie récemment. L'État islamique a réussi à nous faire croire qu'ils n'étaient pas des acteurs rationnels qui faisaient la guerre, mais qu'ils étaient profondément des barbares. Et nous, on n'a vu que les barbares, et on n'a pas compris qu'en fait, il y avait une guerre. Résultat, il y a eu une bataille à Paris, et une bataille à Nice qui a été perdue, parce qu'on n'a pas voulu croire, tout simplement, que la paix pouvait ne pas être l'état normal du monde. On a désappris la guerre, et c'est aussi ça l'histoire des Européens. C'est un peuple qui a désappris volontairement la guerre. Et peut-être... Ce désapprentissage était trop massif.
Alors, il y a une influence notable dans votre roman, c'est la romance ruritanienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
C'était l'un des points de départ très forts du bouquin. J'ai découvert l'existence de la romance ruritanienne. On la connaît tous, mais on ne sait pas que ça existe. Enfin, ça a été complètement oublié. C'était dans une biographie de Debord qui expliquait qu'il était un grand fan du prisonnier Zenda d'un auteur populaire anglais qui s'appelle Anthony Brown. La romance ruritanienne, moi, je la connaissais plutôt par des BD de jeunes filles qu'avait lu ma mère enfant, que j'avais à mon tour lu enfant, qui étaient des histoires d'orphelines dans des royaumes exotiques de Prusse orientale. La romance ruritanienne, c'est fabriquer un pays imaginaire d'Europe centrale, plutôt de langue germanique, en tout cas de culture germanique, avec des châteaux à la Louis II de Bavière et des intrigues de palais pas possibles et des souterrains et des précepteurs méchants et des doubles sosies, etc., dans le prisonnier de Zenda. C'est pour ça que Debord l'admirait beaucoup. C'est un aventurier anglais qui, au détour d'un quiproquo, devient roi de la Ruritanie. Et donc, ça donnait la romance ruritanienne. Et la romance ruritanienne, c'est un vrai pilier du roman feuilleton jusqu'aux années 50, jusqu'à, évidemment, le sceptre d'Ottokar, qui est une des plus grandes romances ruritaniennes. Mais en tirant un peu la chose, la Cancanie Musil est un peu une romance ruritanienne. Il y a plein de choses dont on ne sait pas qui relèvent de la romance ruritanienne. Et moi, j'ai voulu ressusciter ce genre en inventant un pays d'Europe centrale qui s'appelle le Karst.
Alors, comme dans vos précédents romans, il y a dans ce nouveau livre une réflexion sur le sens des lieux de pouvoir, notamment avec le personnage d'Ida, donc qui est une directrice d'une banque italienne, qui va se retrouver à la tête du Karst. D'où vient cette obsession des lieux de pouvoir ?
C'est la veine feuilletonesque qui continue. Je suis un grand admirateur de l'histoire des tresses de Balzac et de toutes ces choses... en l'occurrence, ce qui était intéressant avec le monde de la banque, c'était d'imaginer une banque, la Venezia, qui finit banque à Wall Street, mais qui a été auparavant une banque vénitienne. Donc j'ai imaginé quelqu'un qui devenait présidente de la Venezia. Et la Venezia, elle a une histoire très longue, au sens brodélien, c'est qu'elle a financé les croisades, elle a financé les expéditions de Marco Polo, elle a financé l'Occident, et ça m'amusait. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision très figée, surtout depuis le référendum de 2005, on a une vision très figée du monde des rapports, du monde de la finance et du monde de la politique, qui est par exemple illustré par la quasi-collusion d'un personnage comme Barroso qui va de la Commission européenne à Goldman Sachs. Mais j'ai voulu remettre ça dans un temps long et d'imaginer que l'un des vrais moteurs secrets de l'Occident et de la dynamique occidentale, c'était ce temps long des banques, qui sont très très anciennes, qui fusionnent avec les États, mais pas aujourd'hui en fait, c'est pas au moment de Barroso que ça fusionne avec les États. Les premières fusions avec les États, c'est quand les Médicis font des papes et que les Médicis font épouser leurs filles à des rois de France. Donc ça m'intéressait de raconter, c'est à la fois du complot, mais j'ai une sorte en moi de marxiste esthétique, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans le marxisme, c'est pas tant la lutte des classes, c'est la vision qu'a Marx dans les plus beaux moments du Capital, où il tombe presque d'admiration devant les gigantesques membrures des machines sous les voûtes gigantesques, où il raconte le Capital comme une sorte de force autonome historique. Et en tant que romancier, je suis très admiratif de ça, de faire exister le Capital comme un acteur autonome. Et c'est toute la limite et la beauté de Marx, c'est que c'est une vision tout à fait immanentiste de l'histoire, une vision très très froide. Et je ne peux pas m'empêcher d'aller y chercher de la puissance romanesque.
Alors voilà, vous venez de vous définir comme un marxiste esthétique, et pourtant ce livre est un grand livre sur le libéralisme, hein, sur une même.
C'est incontestablement ça. Le point de départ de cette veine, c'est un voyage que j'avais fait pour. J'en avais écrit un article pour Les Inrecuptibles à l'époque. À Davos, et j'étais allé à Davos avec pas trop de préjugés, je savais pas trop quoi découvrir à Davos. J'avais été frappé évidemment par la beauté du site comme tout le monde, mais j'avais été frappé surtout par le on était déjà après la crise de 2008-2009 pourtant, j'avais été frappé par l'idéalisme profond, c'était l'époque encore où la Silicon Valley, où le siliconisme en tout cas régnait dans les esprits, ce solutionnisme un petit peu magique, et je m'attendais, l'article finissait sur cette petite boutade, je m'attendais à trouver un foyer d'affreux cyniques, et j'étais tombé sur des gens dont l'unique fonction presque révolutionnaire était de changer le monde et de guérir la faim, etc. Et tout le monde avait des idées, je le raconte dans le bouquin, cette histoire est vraie, c'est que quelqu'un fabrique une lampe solaire et ne vend pas une lampe solaire, mais dit qu'en fait cette lampe solaire, ça va permettre de, parce que beaucoup d'Africains n'ont pas l'électricité, d'enfants africains n'ont pas l'électricité, donc n'arrivent pas à faire leurs devoirs, et que cette lampe solaire va permettre à l'Afrique de scolariser 100 millions d'enfants. Voilà, tout le monde, c'est évidemment faux, mais tout le monde, voilà, c'est cette espèce d'état d'esprit comme ça qui flotte dans ces lieux, et faire du libéralisme dont on a beaucoup trop dit que c'était une idéologie sans idéologie, remettre le libéralisme, le reconsidérer comme une idéologie, je trouvais que ça avait du sens. D'autant plus que je ne suis pas loin de penser, alors l'histoire me donnera probablement tort, mais en tout cas, quand j'écrivais le livre, j'étais pas loin de le penser, que la crise de 2009 a été l'équivalent de la chute du mur de Berlin, en tout cas qu'une certaine forme de néolibéralisme triomphant a vécu un événement intellectuel aussi important qu'a été la chute du mur de Berlin pour le communisme, et est devenue une idéologie morte. J'ai voulu confronter comme ça des personnes qui sont confrontées peut-être à la mort possible de ce système, et ça me permettait de faire un tombeau au sens littéraire du terme, c'est-à-dire à la fois entériner que c'était mort et faire un tombeau, c'est maintenant que c'est mort, je vais vous raconter à quel point ça a été beau, et cette philosophie de l'individu libre, des droits humains, tout ce qu'a pu dire Fukuyama, qui n'est pas un très grand philosophe, mais c'est quelque chose moi qui m'a porté, qui est extrêmement générationnel, et je me suis dit c'est dommage de cesser d'y croire complètement, et j'ai voulu témoigner du niveau d'idéalisme très fort qui était porté par les acteurs du libéralisme. Parfois, ça va jusqu'au cynisme absolu. L'idée, par exemple, c'est expédié à un moment au hasard d'une réunion d'Ida avec les cadres de sa banque. L'idée qu'il va y avoir, par exemple, un brutal réveil chinois. Certes, il va y avoir de la casse sociale, mais au final, les salaires vont s'égaliser et à l'horizon 30 ans, les choses seront rentrées dans l'ordre. Cette espèce, le capitalisme tient quand même le temps long, et on sait très bien que le capitalisme gagne toujours. Et l'une des preuves les plus amusantes de ça, c'est que la façon la plus sûre de gagner de l'argent en bourse, c'est de faire un portefeuille qu'on appelle en miroir ou qui reflète la totalité du marché, en fait, et que la bourse, de façon continue, a toujours, toujours monté. Donc, c'est quelque chose. Alors, c'est pas non plus une religion, mais l'idée que ça a toujours monté est en soi assez porteur de mythes.
Et vous êtes un des rares romanciers à traiter de ce sujet-là. C'est un sujet qui, comme la construction européenne, n'est pas un sujet traité en littérature. Est-ce qu'il y avait aussi là une envie de sortir un peu de quelque chose de déjà tout tracé, d'aller chercher autre chose en fait à travers la littérature ?
C'est la partie un peu expérimentale, parce que c'est vrai que c'est très facile de dire que le libéralisme, c'est nul. Et, alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais de raconter une fermeture d'usine, etc. Enfin, ça a été beaucoup fait dans la littérature. Mais la position de raconter que c'est vraiment au sens esthétique marxiste, quoi, et de raconter le système économique comme un tout intégré, interdépendant, une sorte de gros animal organique, autorégulé, etc., ça a quand même une beauté esthétique. Bizarrement, Houellebecq l'avait tenté, mais avant d'abandonner complètement ce projet, au moment de Plateforme, il déclarait souvent le grand roman sur la mondialisation, mais qui est un roman un peu raté dans la mesure où il imagine que la Chine va devenir l'atelier du monde et que les cerveaux resteront en Europe. Enfin, qui est raté pas dans la composition du roman, qui est très bien, mais dans le motif intellectuel général. Mais il racontait qu'il suffisait de lire les pages de Monde du Figaro aujourd'hui pour être au courant de tout. Et évidemment, il est revenu sur cette vision, mais je ne suis pas complètement d'accord non plus. L'idéologie, les religions sont des choses qui sont très pertinentes. Mais en tout cas, l'idée que l'économie, comme tout intégré, porte sa propre esthétique, c'est assez... me porte assez... je ferais même le coup d'après... je pense que la religion, profondément, n'a pas grand-chose à voir avec la morale. Je pense que, contrairement à ce que dit Houellebecq à la suite de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, alors tout est possible, j'y crois pas du tout. Je pense que la morale est intrinsèque aux animaux, aux individus, etc. Je pense, par contre, que la religion a tout à voir avec l'économie et que le vrai sujet de la religion, c'est l'économie, c'est l'intégration. C'est un peu ce que je raconte dans mon livre précédent, Le Grand Paris. La religion, c'est quand on arrive à intégrer un objet tellement gros qu'il a l'air de devenir autonome et qu'il y a des boucles de rétroaction qui nous échappent. C'est là où ça devient religieux.
Alors, il y a un des personnages centraux de ce livre qui est un intellectuel français, Quentin Patrick Stern, donc un avatar non dissimulé de Bernard-Henri Lévy. Et j'étais assez surpris justement à la lecture de retrouver un pseudo BHL dans l'ouvrage, en tout cas sur les premières pages. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Bernard-Henri Lévy pour en faire un personnage de roman parfait et qui a une importance capitale dans...
Alors je me suis souvenu, alors que j'avais déjà eu l'idée, mais que j'avais un projet de roman dont j'ai écrit seulement une demi-page et que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs, elle est dans un vieil ordinateur à moi, d'un roman dont BHL serait le personnage principal. C'était l'époque où il y avait eu 2-3 biographies qui étaient sorties à charge contre lui, où on disait que son père exploitait des forêts en Afrique, toutes ces choses. Et j'avais une scène comme ça où je l'imaginais dans une Rolls et qu'il y avait du bois dans l'habitacle et que ce bois communiquait comme ça avec l'Afrique des jungles, et c'était une figure d'un coup, c'était une figure tout à fait, j'ai oublié le nom, c'était au cœur des ténèbres en fait, il y avait quelque chose comme ça, et que du coup j'ai voulu raconter ça, il le dit un moment, voilà, je suis le fils de Curse, je lui fais dire ça. En soi, ce personnage m'intéressait. Ensuite, le caractère... toute proportion gardée, c'est un peu le cardinal de Retz, par exemple. Le cardinal de Retz, on adore lire ses mémoires. C'est quelqu'un qui a fait à peu près n'importe quoi, qui, par pur caprice politique, a lancé la Fronde. On reproche beaucoup à BHL, je ne sais absolument pas si c'est vrai, je n'ai pas enquêté, d'avoir lancé la France dans la guerre en Libye. Mais j'aime l'idée que des personnages qui seraient tellement égotiques et tellement narcissiques qui serait supérieur aux événements. Et c'est vraiment cardinal de Retz, c'est ça. La Fronde, c'est pas grand-chose, en fait, par rapport à la vie du cardinal de Retz. Et au-delà de la blague et de l'aspect polémique, c'est quelque chose que je mets en scène dans le bouquin, c'est la figure d'Alcibiade, qui est une figure centrale, notamment chez Léo Strauss, d'études de la philosophie politique, où Xénophon et parfois Socrate sauvent systématiquement Alcibiade. Alcibiade étant le plus beau des Athéniens, hein, étant probablement l'amant de Socrate, Alcibiade étant l'élève préféré de Socrate, etc. Et Alcibiade étant, après la mutilation des Hermès, et a été banni d'Athènes, a été condamné à mort, donc ne pouvait pas revenir à Athènes. Et chez ses auteurs, montre Léo Strauss, j'ai pas complètement étudié la question, chez ses auteurs, on trouve une défense d'Alcibiade dans la mesure où la beauté d'individu d'Alcibiade faisait qu'il avait le droit de trahir Athènes et de rejoindre Sparte, vu qu'Athènes le condamnait à mort. Et le destin d'Alcibiade va encore plus loin, il finit étranglé, je crois, ou empoisonné par un satrape... en Asie mineure, et il devient le grand traître à Athènes, mais à aucun moment il est jugé par cette élite intellectuelle de la Grèce de l'époque, Socrate, Xénophon et quelques-uns. Et je fais dire à un personnage qui, justement, c'est la blague, vient de Turquie et incarne plutôt une conception, on va dire, orientale de l'État, à la limite plus à la chinoise qu'à la turque, avec l'idée que le sacrifice de l'individu pour le tout est profondément souhaitable. Et il dit à QPS, cette figure de BHL, que votre faiblesse en Europe, c'est Alcibiade. Voilà, vous n'êtes pas capable. À un moment, vous tolérez toujours de la liberté et vous finissez par effondrer l'édifice social, car vous n'imaginez pas le mal qu'un individu seul peut faire à une organisation sociale. À dire, grosso modo, pour faire des grands schémas très simples, confucianisme contre christianisme. Et donc, j'ai voulu faire de QPS BHL une figure profondément d'Alcibiade, quelqu'un dont le caprice pouvait être problématique, mais en même temps est une figure humaine si grande et si admirable en tant qu'il s'admire lui-même, qu'on ne peut pas complètement l'évacuer. Et c'est pas, il ne m'est pas possible, je peux m'en moquer, je peux en voir les ridicules, il ne m'est pas possible d'évacuer comme une énigme métaphysique l'existence de ce genre de personnage.
Alors pourquoi avoir changé son nom ? En plus, il vous en a pas voulu, parce qu'il a écrit dans une critique qu'il avait adoré le bouquin et qu'il s'était reconnu d'ailleurs dans le personnage de QPS.
Bah parce que prudence de romancier, je pense que le service juridique des éditions Gallimard m'aurait pas laissé de l'appeler de ce nom. Et puis ça me permet aussi d'être un peu souple. Je lui prête des propos dans un entretien avec Mitterrand qui est imaginaire. Je lui prête des propos qui sont pas les siens, donc c'était pas. C'est pas possible en fait d'appeler les gens de leur nom si on leur fait faire des choses qu'ils n'ont pas faites. C'est presque de l'éthique minimale. Quoi.
Alors, à personnage hors norme, il lui fallait deux pendants. Un économiste star qui s'appelle Pareti, qui ressemble beaucoup à Thomas Piketty. Et surtout, l'antagoniste parfait, en tout cas dans le roman de QPS, c'est l'écrivain national Karst, qui s'appelle Griff, qui est une espèce de mélange de Limonov et de Peter Handke. Qui est un poète maudit et qui va finir par devenir chef de guerre pendant la guerre en ex-Yougoslavie.
J'avais fait un gros ratage à l'époque de la théorie de l'information parce que c'était inspiré de Xavier Niel et j'imaginais que Xavier Niel n'obtenait pas sa licence de téléphonie mobile et devenait fou, plus ou moins. Et alors que je n'avais pas du tout vu les coups d'après, le personnage est tellement meilleur romancier que moi-même qu'il est encore plus balzacien, il a épousé la fille de Bernard Arnault, il a racheté le monde, tout ça en dehors de méchantes compétences. Donc je l'avais laissé... assez génial, et il fait les deux coups les plus magistraux qu'on ait jamais vu dans le capitalisme français. Là, toute proportion gardée, il s'est passé un petit peu les mêmes choses, parce que Griff, c'est un Peter Handke à jamais désespéré de ne pas avoir obtenu le prix Goncourt à cause de la guerre en ex-Yougoslavie. Bon, blague à part, j'aime beaucoup Peter Handke, j'étais content qu'il obtienne le prix Goncourt, mais ça gâchait un petit peu mon personnage de Griff. Griff, c'est à la fois le... Limonov pour le côté grand dissident, slave égaré comme une sorte de monstre de foire exotique et d'une dangerosité infinie dans le New York malgré tout un peu puritain. Et ensuite, c'est quelqu'un qui, rêvant d'aventure et d'écrire sa propre légende, va se retrouver à faire des actions dont on saura finalement pas grand-chose au cœur de la guerre en Yougoslavie. C'est un écrivain à qui l'échappe des propos comme la guerre, c'est les grandes vacances de l'Europe. C'est quelqu'un qui communie autour de l'idée de guerre et d'une solidarité comme ça entre les peuples, et dont j'ai voulu faire une sorte de leader nationaliste pan-européen, parce que c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire européenne. On parle toujours de la construction européenne sur le côté, progressiste, mais l'Europe, c'est aussi un objet d'extrême droite, c'est aussi un objet qui est beaucoup mobilisé, qui a beaucoup mobilisé les intellectuels d'extrême droite. Il existe des théories pas toujours bonne, souvent un petit peu tirée, mais qui explique qu'il y a quand même une certaine porosité entre les fonctionnaires européens et les fonctionnaires de la collaboration ou les gens qui ont cru aux idées de Reich hitlérien. Il y a toute une veine de régionalisme qui veulent casser l'État-nation et faire une Europe des peuples, etc. Donc il n'était pas idiot, pour raconter vraiment pleinement l'Europe, d'avoir quelqu'un qui incarnerait ça. Ce serait une sorte de Soral européen aussi. Et à la fin, il mobilise des troupes en communiquant. Ce qui est aussi important, et c'est en ça où le roman, c'était important de faire une romance britannienne, c'est que la romance britannienne, c'est le monde du conte de fées. Et on ne peut pas ne pas parler de conte de fées si on parle d'Europe, parce que disons que si on prend en vrac les vraies sources profondes de l'histoire européenne, c'est l'Empire romain, l'idée que l'histoire de l'Europe a déjà été jouée en mieux et qu'on n'est qu'une sorte d'humanité seconde et décadente. L'autre grande source, c'est évidemment le christianisme, et l'Europe très largement et pendant longtemps se confond avec la chrétienté. Et en troisième temps, il y a les contes de fées qui sont porteurs plutôt d'un vieux fond païen. Alors les contes de fées au sens large, hein, qui vont jusqu'aux légendes wagnériennes, qui vont jusqu'à toutes ces légendes nordiques et germaniques, ça fait partie vraiment du fond européen. Donc j'ai voulu mobiliser aussi ce fond européen, donc à la fois par la fabrication d'un royaume d'opérette qui est et qui est quelque chose d'un conte de fées. Et le roman finit presque comme un conte de fées, comme ça il va arriver des rebondissements à des personnages de l'ordre du conte de fées. Mais Griffe mobilise l'ancien peuple du conte de fées, c'est les païens inguérissables qui viennent des bûcherons, qui sont des gens qui n'ont jamais été complètement christianisés, qui communiquent avec ce vieux fond. Et j'avais envie de cette scène où à un moment il fait un discours devant un chantier d'une chapelle en bois et que les gens brandissent des tronçonneuses comme ça. C'est pas une vision définitive de l'Europe, mais je voulais montrer que ça existait aussi. Et quand on voit les images de ces militants identitaires qui vont tenter de façon un peu pathétique, mais l'image en était quand même spectaculaire, d'aller remonter tout seul une petite frontière en haut des Alpes, ces choses existent, donc c'était important de les intégrer aussi.
Alors, il y a un exercice quasiment borgésien dans Le continent de la douceur. Chaque chapitre commence par un extrait d'un livre qui n'existe pas, écrit par Griffe, ouais. De deux livres d'ailleurs, donc Le nombre Gorinsky, qui est l'ouvrage qui a eu le plus de succès à la fin des années 90, c'est l'équivalent du plus que Le nom de la rose d'Umberto Eco.
L'alchimiste.
Ah, c'est l'alchimiste.
Enfin, non, mais ce genre de choses, voilà. C'est une sorte de grand livre un peu postmoderne.
Et puis ensuite, Fragments du gouffre. Comment vous avez écrit en fait ces passages-là? Justement pour les intégrer parfaitement dans le récit.
Au début, je ne savais pas que j'allais les intégrer, donc ils sont grosso modo, c'est un texte qui est découpé et qui fait juste les petits incipits des chapitres. Je ne savais pas du tout, au début c'était un chapitre beaucoup trop gros, donc en fait j'ai fait un texte très gros, qui était plutôt aphoristique, qui était déjà coupé, mais qui était beaucoup plus conséquent, et puis je l'ai retaillé, et puis finalement, sur les ultimes épreuves, j'ai encore coupé, donc finalement... le texte était quasiment 10 fois plus gros que ce qu'il en reste, mais j'aimais bien l'idée du livre dans le livre, et puis comme c'est un livre qui est écrit par Griffe et que Griffe est un écrivain, j'avais quand même, alors il y a deux techniques de Borges, hein, il y a celle-ci et puis il y a aussi la technique d'un chapitre qui résume pourquoi, à quoi bon écrire le livre quand on peut simplement le résumer, un texte de Borges, quoi, c'est l'approche d'Almostim qui commence comme ça. J'ai voulu faire ça et j'aimais bien l'idée que c'est un grand livre, alors j'ai imaginé toute une construction, c'est qu'un livre qui était un peu marquant, qui n'est pas un très grand livre, mais un livre qui était marquant, qui est paru au début des années 2000, je crois que c'est Robert Kagan, un intellectuel américain plutôt néoconservateur, qui explique que l'Europe est devenue le continent de la douceur parce qu'elle est faible et que la douceur, c'est l'arme des faibles et que si elle était un pays fort, elle serait impériale comme elle l'était impériale à l'époque où elle était forte et que c'est maintenant au rôle des Américains d'être impériaux. Et que c'est une opposition comme ça qui est assez intéressante parce que c'est une opposition pas politique mais presque anthropologique, les forts, les faibles, etc. Et j'ai imaginé qu'en fait, ce texte de Robert Kagan qui a été écrit en vrai dans le contexte de la guerre d'Irak, il l'aurait écrit en réaction à un texte si génial de Griffe. Alors, c'est toujours bien quand on dit que le texte est génial de ne pas l'écrire au complet. C'est plus facile. Il l'aurait écrit en réaction à un texte de Griffe qui, pour la première fois, condensait, peut-être un peu à la Sebald, peut-être à la Umberto Eco, effectivement, condensait l'âme européenne. L'âme européenne, c'était ça. Et c'était ce livre qui racontait que l'Europe, c'était une sorte de pointe extrême de la civilisation et qui arrivait à le démontrer, civilisation et douceur. L'unique occurrence du continent de la douceur, le titre du livre, elle est justement dans ce livre de Griffe. Donc le continent de la douceur, je voulais le faire dire par un écrivain qui est un écrivain en fait à double fond, parce que c'est un écrivain de best-seller plutôt populaire, livre que vont s'offrir les élites du monde, que Chirac offrira à Clinton, etc., mais qui en fait a été écrit, on va le découvrir, c'est pour ça qu'il n'aura pas le prix Nobel, a été écrit à son retour de Yougoslavie par un type qui a probablement été milicien du côté des Serbes de Bosnie. Donc voilà, et l'autre livre, parce qu'il y a...
Oui, il y a deux livres. Ouais.
Il y a deux livres, c'est juste Zinkiewicz, je ne dis pas que c'est un autre livre, et l'autre livre, eh ben là j'ai oublié.
Fragment du gouffre, hein.
Fragment du gouffre. Ah oui, bah l'autre livre, pardon, oui, c'est pas du tout le livre de Griffe. L'autre livre, c'est c'est un peu l'une des sous-intrigues du livre, c'est qu'il y a cette fameuse banquière dont on parlait tout à l'heure, un père disparu qui était le grand ingénieur national du karst de ce pays imaginaire et qui aurait fabriqué des choses merveilleuses et qui aurait développé des théories merveilleuses. Et ce livre, en fait, c'est tout ce qui reste de ce grand œuvre, ouais, sorte de fragment, d'esthétique du fragment.
Alors, il y a beaucoup question de mathématiques dans cet ouvrage, à la fois de l'histoire de philosophie des mathématiques, et notamment d'un courant dit intuitionniste, qui considère que les objets mathématiques ne préexistent pas à leur mise en équation ou en théorème. Pourquoi s'intéresser à ce courant-là? Qu'est-ce que ça apporte dans le récit? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler de la machine à calculer Spitz?
C'est la partie où j'arrive jamais à être simple, mais j'ai trouvé une nouvelle technique. Donc je vais l'expérimenter ce soir. Moi, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler, quand je faisais des études de philosophie, de la crise des fondements des mathématiques. qu'on me racontait comme une énorme catastrophe intellectuelle, d'un coup tout s'effondre, c'est à peu près comme si les lois de la gravitation ne marchaient pas, enfin, c'est catastrophique. En vrai, ça concerne un petit groupe de logiciens et ça a assez peu impacté les sciences, mais disons qu'entre la crise des fondements des mathématiques, les paradoxes des ensembles et les théorèmes d'incomplétude de Gödel, toute la formalisation ultra-rationaliste, axiomatique des mathématiques s'effondre et les mathématiques doivent se réinventer autrement, soit en intégrant de nouveaux axiomes, ceux de Zermalo Frankel notamment, soit en devenant, en assumant d'être une construction. Et que donc, du coup, les mathématiques étaient plutôt de l'ordre, grosso modo, du langage commun, d'une sorte de purification commune du langage pour arriver à un langage commun, devenait presque, en tirant la chose, la langue dialectale de l'Europe savant et du monde savant. Et donc cette histoire m'intéressait aussi parce que quand on entend parler d'une crise des fondements des mathématiques en 1900, on ne peut pas ne pas la relier au grand siècle des catastrophes que fut le XXe siècle européen. Et imaginez, alors même si c'est pas vrai, même si c'est un peu tiré par les cheveux, je sais pas, imaginez que toutes ces catastrophes ont pour fondement une crise dans ce qu'on croyait être profondément les fondements du monde. Je peux pas m'empêcher de me dire que ça marche et que intuitivement je sens que c'est la bonne idée. Et comme le livre parlait de la construction européenne et que l'intuitionnisme de toutes les solutions envisagées pour contourner ces paradoxes qui minaient les mathématiques, l'intuitionnisme était du côté de la construction, ça marchait bien. L'intuitionnisme, c'est là où j'arrive à l'explication simple. Celui qui le résume le mieux, c'est la fameuse phrase de Descartes, Dieu aurait pu faire que 2 plus 2 fasse 5, qui est une vraie prise de position intuitionniste très forte. En général, les philosophes ne sont pas d'accord avec ce 2 plus 2 égale 5 selon la volonté divine. C'est-à-dire que ça fait la volonté de Dieu est antérieure à la logique, c'est-à-dire que les vérités mathématiques sont de l'ordre de la création du cerveau. Alors ça ne veut pas dire, et c'est là où l'intuitionnisme est très subtil, ça ne veut pas dire que je peux faire que 2 plus 2 égale 5, parce qu'il faudrait que j'arrive à vous en convaincre, et ça serait très compliqué, etc. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est une idée qui est très troublante, que moi j'avais découvert dans un livre excellent que je recommande vivement, qui est un livre de Jules Villemin qui s'appelle « Nécessité ou contingence », où il utilise justement la question de l'intuitionnisme pour répondre à un vieux paradoxe de philosophie antique dans les détails duquel je ne rentrerai pas, qui s'appelle l'aporie de Diodore. En gros, c'est 4 propositions inconciliables sur la nature du temps, et avec un génie structuraliste extrêmement rare dans l'histoire de la pensée, Jules Villemin classe la totalité des systèmes philosophiques selon la proposition qu'ils ont validée, selon les propositions qu'ils ont exclues. Et l'intuitionnisme est l'une de ces propositions qui est invalidée. Donc c'est une école qui existe vraiment, qui va d'Épicure. En vrai, moi, il s'appelle Gorinsky. En vrai, le grand intuitionniste du XXe siècle s'appelle Breuer, et c'est un néerlandais, c'est pas un Karst. Mais c'est une école mathématique qui remonte à Épicure, quand elle est un petit peu, Descartes est un petit peu, Poincaré l'est peut-être, et que c'est une école mathématique assez méconnue. Et bizarrement, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'alors, comme je disais avec l'histoire de Descartes, ça semble mettre la volonté plus forte que la logique. En réalité, l'intuitionnisme imagine aussi une modalité où on pourrait se passer du cerveau du mathématicien, et alors en donnant l'impression d'être une théorie psychologisante des mathématiques, il autorise de façon assez paradoxale la mécanisation du calcul. Et l'intuitionnisme va triompher à partir du moment où l'ordinateur va triompher. Donc l'intuitionnisme raconte aussi cette histoire du longtemps du XXe siècle, qui est ce grand siècle de l'informatique, qui reste une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Et c'était amusant de le raconter comme ça. Et moi, la naissance de l'intuitionnisme, c'est un petit calculateur qui a été inventé justement par le père Dida pendant la guerre. C'était l'image que j'avais au tout début du roman, j'avais imaginé cette chose. Alors ça existe, et justement, c'est justement souvent attribué aux principautés, parce que le modèle, c'est le calculateur Curta, qui était un objet qu'on fabriquait au Liechtenstein dans les années 50. C'est un petit moulin à poivre, comme ça, avec une poignée qui faisait les 4 opérations. Et j'ai imaginé, en fait, que c'était une fabrication Karst, qu'il était évidemment beaucoup plus puissant que ça, et il me permettait de concentrer plein de sous-intrigues, parce que à la fois, il aurait servi, moi c'est l'image que j'avais au tout début, j'avais imaginé des petits écoliers de l'Europe de l'Est qui tournaient ce moulin un petit peu comme des enfants lamas tibétains dans des monastères, et qu'en fait ils calculaient tous ensemble un chiffre qui était top secret, et que ce chiffre participait à au calcul distribué du calcul des réactions de fission dans la bombe soviétique. Et qu'en fait, cet objet communiquait avec ça, communiquait aussi avec une histoire beaucoup plus sombre, qui était l'histoire liée à la comptabilité des morts dans les camps de la mort, parce qu'on sait, et c'est documenté, que parmi les grandes machines qu'IBM avait fabriquées et vendues au Reich dans les années 30, pour faire des recensements, l'une d'elles a fini à Auschwitz. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais j'imagine qu'en fait, cette machine serait tombée en panne et qu'il aurait fallu imaginer une autre machine. Donc, cette machine communiquait aussi avec toute cette histoire et finit après dans le programme spatial yougoslave. Donc, j'aimais beaucoup l'idée, qu'une idée très 20e siècle, d'un objet qui est quasiment magique, au sens d'Arthur C. Clarke, un objet indiscernable de la magie, les objets techniques indiscernables de la magie, et qui encryptait comme ça le poids profond de l'histoire européenne, et que le karst était considérablement alourdi par cet objet qui était peut-être un objet directement responsable de crimes de guerre.
Alors, vous concluez l'ouvrage sur une tentative ratée de contre-révolution réactionnaire à l'échelle européenne. La montée des populismes actuellement dans différents pays d'Europe qui justement en fait reste populaire, la popularité de certains dirigeants comme Salvini, Orban ou Boris Johnson au Royaume-Uni, même après plusieurs mois d'un exercice au pouvoir souvent délicat. Comment vous l'interprétez justement, ce virage populiste, alors que depuis une cinquantaine d'années on était dans une espèce de douceur, de plus jamais ça?
Il existe des solutions si compliquées qu'on imagine le pire pour les résoudre. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et de toutes les solutions les pires qu'on imagine pour les résoudre, la guerre fait partie de ça, la guerre comme processus de purification. Et qu'on l'entend bizarrement, parce qu'on entend beaucoup, par exemple, le retour aux ordonnances de 45. Et on entend derrière, alors c'est pas du tout défendu par les gens qui disent ça, mais on entend derrière, oui, mais il y a quand même une explication, les ordonnances de 45, c'est que le pays était détruit et que des millions de gens étaient morts, et que voilà. Il y a ce désir profond de catastrophe, comme la catastrophe comme quelque chose qui résout les conflits. Je me rappelle d'un débat un peu surréaliste il y a quelques années entre Todd et Piketty, où ils arrivaient à la conclusion, sans le dire complètement, mais que la seule façon historique qu'on a trouvé de résoudre les inégalités, c'est la grande peste et la guerre mondiale. Donc il y avait un côté bon, certes, et on voyait profondément que l'un comme l'autre croyait pas vraiment à la grande réforme fiscale, quoi. Et que voilà, face aux impossibilités et aux complexités du réel, le populisme apparaît comme une solution. La phrase la plus éclairante sur le populisme, je suis tombé dessus par hasard sur Twitter, c'est une analyste chinoise, donc j'ai bien aimé le fait qu'elle soit chinoise et qu'elle a un rapport tout à fait distant et assez rationnel à la chose. C'est il y a des problèmes. Donc les gens, comme ils sont fâchés qu'il y a des problèmes, ils mettent les populistes au pouvoir, mais comme les populistes sont intrinsèquement incapables de résoudre les problèmes augmentent. Et c'est quelque chose, c'est une sorte d'équation comme ça fondamentale qu'on a tous en tête, mais il y a toujours un moment où l'équation elle vrille, puis on se dit allez, on va mettre les nazis au pouvoir, ils vont se compromettre et dans deux mois c'est réglé, quoi. Il y a toujours ce moment où on tient pas complètement la rationalité, et il y a toujours ce moment où profondément le désir de guerre naît en nous. Je renvoie au livre Somme sur la question qui est le rivage des cires de Grac. C'est un livre qui raconte vraiment profondément comment le désir de guerre peut naître de rien, comme un nuage sur un lac, quoi, comme ça. La chose se matérialise sans aucune rationalité. Et voilà, c'est un peu le côté. Enfin, il est. Il y a une chose qui est à peu près universellement sue, c'est que la guerre, c'est toujours très mal, quoi. Mais c'est amusant qu'il existe des époques où on oublie cette évidence, quoi. Et c'est probablement lié à une distance comme ça qui s'aggrave vis-à-vis du conflit.
Et est-ce qu'éventuellement une expérience impériale, à nouveau, pourrait être quelque chose d'envisageable, hein?
Bah, c'est le grand mystère de l'histoire européenne, c'est pourquoi c'est la seule partie du monde dans laquelle les empires n'ont pas pris. Il y a plein d'explications, il n'y en a aucune qui est valide, et en tout cas l'objet est toujours prenable et on ne peut pas s'empêcher. Alors je pense que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé ce matin pour Macron à Bruxelles, mais on ne peut pas, le destin impérial reste ouvert. Évidemment, le modèle de ça, c'est Napoléon, parce que c'est foudroyant et c'est d'un génie consternant, et puis ça va à une vitesse folle. Mais il ne faut pas oublier qu'Hitler, quand il va à Paris, la première chose qu'il fait, c'est aller au tombeau de Napoléon. Donc la figure impériale existe. Il y a des grands empires qui se sont effondrés, comme le Saint-Empire, évidemment comme l'Empire romain. Et il y a cette tentative régulière. La question impériale n'est pas réglée. La question impériale n'est pas réglée en Europe. Ça s'est joué à peu de choses. La France joue un rôle majeur dans cette histoire, hein, à la mesure où, dans les guerres entre François Ier et Charles Quint, là, il y avait une hypothèse impériale possible. On ne peut pas s'empêcher de se dire que l'hypothèse impériale est tellement impossible que la construction européenne est la seule forme que l'histoire a trouvé de la formuler. Mais on tombe sur des singularités complètement folles. La première idée de Jean Monnet, avant d'avoir l'idée de faire la communauté économique du charbon et de l'acier, c'est au printemps, en juin 40, c'est un projet de fusion absolue et constitutionnelle entre la France et l'Angleterre. Et le truc passe presque, Churchill est presque pour, au dernier moment il hésite, Paul Reynaud démissionne et finalement le projet tombe à l'eau. Mais pendant deux jours, ce projet complètement fou, comme une chance historique qui apparaît absolument de nulle part, aurait existé. Et c'est un projet qui va bien plus loin que l'Union européenne. Enfin, si on lit le texte des télégrammes qui sont échangés à ce moment-là, un moment compliqué parce que le gouvernement français à ce moment-là replié sur la Loire, le texte dit vraiment qu'à compter de cette date, les citoyens français et les citoyens anglais font partie du même pays. Il y a des choses comme ça qui ont existé. Donc il y a des sortes de chances historiques qui est intéressante.
Merci Aurélien Mélanger.
Merci beaucoup.